Le psaume 24, tout d'abord. Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est l'interrogation que je pose ce matin. Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Et le psalmiste continue, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, celui-là obtiendra la bénédiction. Et là, je m'arrête un instant et je réfléchis et je me dis, Claude, est-ce que tu peux prétendre monter à la montagne de l'Éternel? Est-ce que tout est pur, tout est parfait? Est-ce qu'il n'y a pas l'ombre d'un mensonge conscient ou inconscient? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et la fin du psaume est assez particulière. C'est verset 7, « Porte élevée, vous lenteaux ». Pour les questions de sécurité et d'accessibilité, on nous fait bouger les grandeurs des portes. Mais là, c'est « Porte élevée, vous lenteaux ». Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, l'Éternel puissant, l'Éternel des armées. Alors je m'arrête quelques instants sur cette pensée parce que cela me montre au plus profond de mon cœur que je ne peux pas rentrer en la présence de Dieu avec mes mérites. Lesquels? Ah, je suis baptisé. Immersion. Moi. En plus, je fais partie de l'église de Pentecôte. Je fais partie des ADD. Donc je mérite d'entrer dans ta présence, Seigneur. Oh, on ne le dit pas. Dans l'Écriture, on voit des religieux qui sont capables de dire, Seigneur, tu sais, je fais, je suis pas comme lui. Et le Seigneur voudrait montrer, mais qui sommes-nous pour entrer dans la présence de Dieu? Si ce n'est que l'effet de la grâce et de l'amour du Seigneur, dans plusieurs prières, s'était exprimé, il a déchiré le voile, il a ouvert les portes. Et là, le texte est assez fort, puisque il est question de l'ouverture des portes. Alors, les portes faisaient 4, 5, 6 mètres de largeur, et peut-être autant de hauteur. Alors je me dis, moi je pouvais passer. Mais il n'était pas question de moi. Il n'était pas question de l'être humain. En raison de la désobéissance du peuple, l'arche qui symbolise la présence de Dieu avait été retenue par l'ennemi. Et cela pendant 50 ans. Puis dans une famille chrétienne, je vais l'appeler ainsi. Mais ce que je sais, c'est qu'elle n'était plus dans la maison de Dieu. Et à ce moment-là, pourtant l'arche, qui faisait 70, comme une grande caisse, 70 et 1,40 m. C'est pas énorme. Ça passait largement. Pourquoi agrandir les portes? Parce que ma mesure, mes limites, mes calculs, mon raisonnement ne pourront jamais suffire à laisser la présence de Dieu rentrer dans ma vie. Porte élevée, vous lenteaux. Dieu parle d'ouverture. Dieu voudrait qu'on élargisse nos cœurs pour mesurer, qui peut mesurer l'amour de Christ? Qui peut mesurer l'amour du Père? Et ce matin, je pose la question, et je la pose, vous savez, à qui? À moi. Je me prêche ce matin. Est-ce que ton cœur est suffisamment grand ouvert pour laisser toute la plénitude de sa présence? Mais sa présence qui n'est pas là pour me faire peur et me faire fuir, mais remplir, me remplir de sa grâce. Alors on va lire un deuxième psaume, le psaume 121. Celui-là, beaucoup le connaissent, psaume 121. Et si vous le connaissez, alors vous le dites à haute voix avec moi. Je lève les yeux. Ah, c'est bien. Je lève les yeux vers. Alors j'entends la montagne. Non, les. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que sur votre Bible, vous avez vu en introduction les premiers mots, les trois premiers mots? C'est quoi? On est entre nous ce matin. Cantique des degrés. Oui, parce que c'était, certains disent, c'était les différentes marches, les 15 marches du temple qui permettaient d'accéder. Et la tradition veut penser, laisser penser, qu'à chaque palier, on chantait un psaume. Mais d'autres pensent, je crois que c'est plus dans ce sens, que certains pèlerins venaient de loin. C'était des véritables pèlerinages. Et quand on fait un pèlerinage, et Jésus le sait, parce que pour venir au temple, à l'âge de 12 ans avec ses parents, 120, 100 kilomètres, pas en TGV, à pied, sur le dos d'un âne, mais souvent on mettait le chargement, la nourriture et les offrandes. Et lorsque le pèlerin, le matin du départ, pour un long chemin qui durait parfois plusieurs jours, il regardait de sa maison toutes les montagnes, il se disait, mais je vais devoir franchir toutes ces difficultés pour arriver jusqu'à la montagne sainte. Et l'on sait très bien, et ceux qui ont eu l'occasion de visiter même Jérusalem, ce fameux chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho, là où cet homme a été blessé par les brigands, c'était des sentiers coupe-gorge. Et le pèlerin se disait, mais je lève les yeux vers les montagnes, ce n'est que danger, obstacle. Et la vie est ainsi faite. Je lève les yeux vers les montagnes de souffrance, de difficulté, de solitude, de mépris, de rejet. D'où me viendra le secours? Est-ce que je mérite plus qu'un autre? Et la réponse est, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, mais qui permet à l'arche d'entrer, symbole de Jésus-Christ, dans la maison de Dieu. Seigneur, je ne viens pas avec mes principes, et on va y venir. On va y venir. Mais une petite remarque au passant, psaume des degrés. Si vous regardez bien, le psaume 121, c'était le deuxième. Donc le 120, c'était le... Oh, vous êtes formidable ce matin. Et le psaume 120, c'est le psaume de la détresse. Si vous le lisez, c'est le psaume de la détresse. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. C'est le psaume de la détresse. Le 121, c'est le psaume de la résolution. Je lève les yeux vers les montagnes. Et je dis pas, c'est trop dur, je m'arrête. Parce qu'on peut avoir cette tentation, à un moment donné, d'abandonner dans la vie chrétienne. De baisser les bras. Et le psaume 21, c'est « Je me lève ». Et puis, si vous regardez le 122, c'est le troisième. Je compte bien. Et qu'est-ce qu'il dit, le troisième? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors, je ne veux pas vous faire les 15, mais je retiens ces trois premiers pour montrer. Je crois qu'il faut que la présence de Dieu soit une joie tellement extraordinaire que, Seigneur, je veux venir dans ta maison me faire du bien. Mais je veux venir aussi dans ta maison pour faire du bien à ceux qui m'entourent. À celui peut-être qui est découragé, à celui qui peut-être le 24 au soir sera tout seul. Je veux faire du bien, Seigneur. Amen. Je m'arrêterai sur quatre montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Alors, je ne veux pas m'arrêter sur les montagnes de soucis, de problèmes, de difficultés. Vous avez eu votre compte, donc c'est pas la peine d'insister. Je m'arrêterai sur une première montagne qui est le Sinaï, ou le Sinaï. Vous la connaissez, on va pas lire le texte, c'est dans le livre de l'Exode, vous pourrez tranquillement le consulter. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Dieu parlait du haut du Sinaï. Et quand il parlait, ça faisait comme des bruits de coups de tonnerre, avec des éclairs, des tremblements de terre, tout le monde partait en courant. Et le livre de l'Exode dit, Dieu a dit, quiconque touchera à la montagne mourra. Wow! Cette image de Dieu, moi je me souviens, j'étais gosse, et ma grand-mère me disait, j'étais élevé chez ma grand-mère me disait, si tu fais des bêtises, il t'arrivera des pépins, et le bon Dieu te punira. Et comme il m'arrivait de ne pas faire de bêtises, c'était rare, il m'arrivait souvent des pépins. Et l'image de Dieu, c'était ce Dieu, mais qui allait régler ses comptes avec moi. J'étais sûr. Le Seigneur est bon, il a changé l'image que j'ai eue. Mais parfois, on a peur. Mais Dieu voudrait, et c'est Jean 3,16 qui dit, Dieu m'a tellement aimé. D'avoir une autre dimension. Oui, c'était le Dieu de l'Ancien Testament, qui voulait rentrer en relation, mais voulait amener la crainte. Il fallait poser des cadres. C'était là, le cadre de la loi. Oh, c'est de là que sont sortis les 10 commandements. Et je dirais que c'est la montagne du rituel. Je lève les yeux vers les montagnes, et le danger, c'est de tomber dans le rituel par peur. C'est Jean-Baptiste qui dira, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous venez, vous faites, parce que vous avez peur. Mais Dieu voudrait que nous venions, que nous fassions par amour. Il y a eu les 10 commandements et toutes les lois qui ont décliné des 10 commandements. Puis il y a eu la tente d'assignation ou la tente du rendez-vous, appelée le tabernacle. Il y avait la colonne de feu la nuit, la colonne de nuit le jour. Et avec une rigidité, une rigueur, et seul le sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et le souverain, dans le lieu saint, une fois par an. Il y avait tout un rituel. Mais Christ a tout accompli. Il a accompli tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Holocauste, expiation, culpabilité. Il a tout accompli. Il a accompli tous les principes, toutes les lois. Il n'a pas dit « j'efface les lois, mais j'accomplis la loi ». La loi, dit Paul, est un pédagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui nous amène à la connaissance de Christ. Mais une fois que nous connaissons Christ, le tuteur de la loi tombe. C'est une relation d'amour. Mais on peut tomber dans le piège du rituel. Assister au culte. Prendre la Sainte Cène. Vous savez, avec les grands-mères de la maison de retraite, il y a des moments, c'est pas triste. Hein. J'ai pas eu le pain. Je m'interroge sur si est-ce que c'est la communion ou est-ce que c'est le rituel. Si quand je prends le pain et le vin, Seigneur pardonne-moi si j'ai péché, mais je pense pas. Amen. On est dans le rituel, alors que le Seigneur voudrait que nous puissions sonder notre cœur. Et non seulement par notre relation avec lui, mais pour notre relation avec ceux qui nous entourent. Car Jésus nous dira, il le dira à son Père aussi, pardonne-nous comme nous pardonnons à notre voisin et à tous ceux qui nous aiment bien et les autres aussi.
Amen.
Le rituel. Le rituel, on pense que parce qu'on a fait notre prière, parce qu'on a fait des actes, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ça, c'est la montagne du Sinaï. Et je crois que le Seigneur veut nous enlever de ce piège. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous vous rendez compte que le peuple chantait, louait pendant 50 ans alors que l'arche n'était plus. Alors que la présence de Dieu n'y était plus. On peut continuer de chanter. L'ennemi n'est pas gêné quand nous chantons, quand nous prions. Mais quand il sent la présence de Dieu et la révélation de la croix dans nos vies, l'ennemi ne peut que fuir. Parce que Jésus est la lumière. Amen. Oh, certains ont trouvé mieux, ils ont adapté même les rituels. Parce qu'ils étaient dans l'impatience. Vous savez, dans les églises, je sais pas à moi ça, hein, votre cher pasteur bien-aimé me l'a dit. Mais il y en a qui sont impatients. Oui, le réveil n'arrive pas. Oui, on devrait. Oui, il faudrait. Oui. Alors, on avait comme ça toute une équipe qui ont saisi Aaron et ont dit, eh, nous aussi, on va faire notre rituel. On va se faire un veau d'or. Ah, il y a eu consécration. Il y a eu offrande. Il y a eu des chants, même des danses. Mais je vous dis pas, du haut de la montagne, ça a bougé, hein. Même Moïse, il a eu un mauvais quart d'heure. Et les tables de la loi aussi. Je m'arrête là, je passe à la deuxième montagne, qui en réalité sont deux jumelles. Ça va, vous supportez encore? Ouais. J'ai bien pensé vous parler des 14 montagnes de l'Ancien Testament, mais ça se faisait un peu long. Quand le peuple devait rentrer dans le pays de Canaan, Dieu a dit à Moïse, c'est pas toi qui vas y rentrer, c'est Josué, mais tu lui diras de ma part que sur, il y a deux montagnes côte à côte. On va les appeler les jumelles. Il y a le mont Ébal et le mont Garizim. Pas trop haut, 700-800 mètres. Et tu vas prononcer toutes les bénédictions sur le mont Garizim. Mais les bénédictions, c'était « Si tu obéis, je ferai ». Et sur le mont Ébal, toutes les malédictions. Si tu obéis pas, Deutéronome, vous verrez, il y en a deux ou trois chapitres. Et toutes les maladies et les épreuves qui en découlent. C'est... Hein? Je passe. Mais ce que je remarque, c'est devenu une tradition, la tradition du légalisme. Si tu obéis ça, si tu fais ça, alors Dieu te bénira. Ces conditions qui sont souvent le langage de croyants. Quelqu'un qui arrive... Ah oui, mais il faut faire comme ça, mais il faut faire comme ça. Et puis tu sais, ça c'est interdit, sinon Dieu peut pas te bénir. T'es malade. Qu'est-ce que t'as fait? C'est le principe Ébal Garizim. Lorsque Jésus un jour s'est arrêté au puits de Jacob, qui est là à Sichem, au pied des deux montagnes, il a rencontré une femme samaritaine. Les disciples étaient partis faire les courses au supermarché. Quand ils sont revenus, ils ont dit « Waouh, Jésus parle à une femme. » Puis en plus, à une samaritaine. Mais que faisait le Seigneur, lui? Il apportait l'eau fraîche. Puis à un moment donné, cette femme a dit « Je vois que tu es prophète. Nous, les Samaritains, on adore sur Garizim, la montagne des bénédictions. » Et vous, on le sait, vous adorez sur Jérusalem. Là, ils étaient sur deux montagnes. Puis Jésus a dit, stop. L'heure vient, elle est déjà venue. Ce n'est ni Garizim, ni Jérusalem, ni Sion, ni Ébal. Arrêtons ces conditions que notre nature et notre personne ne peuvent accepter. Principe des lois, des préceptes. L'heure vient où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Alors je passe rapidement parce que le légalisme, Paul le dénonce au travers de la plupart de ses épîtres, d'autant qu'après avoir prêché le message de la croix, en particulier aux églises de Galatie, aux Galates, dépourvues de sens, je vous ai annoncé le message de Christ. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pour revenir à la loi. Troisième montagne, toute petite. Je l'ai vue, je l'ai observée, 300 mètres, 400 mètres, mais elle est appelée mont Golgotha. Aujourd'hui, au pied de cette montagne, il y a un supermarché, un parking, pour montrer l'indifférence et le mépris. Mais sur cette montagne, il s'est passé quelque chose. Et quand le psalmiste me dit à moi, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il nous vient de Golgotha. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, je ne veux pas vivre dans la défaite, mais je veux lever les yeux vers cette montagne. Et en permanence, c'est pour cela que le Seigneur dit, au travers de l'apôtre Paul, faites ceci en mémoire, rappelez-vous le prix qu'il a payé. Rappelez-vous, pour réaliser la force du triomphe de la croix, Christ est mort, mais il est ressuscité. Amen. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et par ses meurtrissures, je vous le dis ce matin, de la part de mon maître, tu es guéri. Parce que pour moi, l'évangile, c'est pas une religion. C'est rentrer dans sa présence. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je voudrais que tu me pénètres. Et s'il me faut, montre-moi à nouveau Golgotha. Et le prix que tu as payé pour moi. Et le triomphe que tu as remporté pour ma vie. Et je termine par la dernière montagne. Après cette petite montagne de Golgotha, ne la cherchez pas sur votre carte, ni sur votre map monde. Paul aux Éphésiens dira, Christ est ressuscité. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il a triomphé sur la mort. Il a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Mais il a mis en nous une espérance et une réalité. C'est que là où il est, nous y serons aussi. Et c'est plus haut que toutes les hautes montagnes. Amen. Et Paul aux Éphésiens dit, Christ s'est assis dans les lieux célestes. Waouh ! Et il dit, et il a mis dans les lieux célestes toutes sortes de bénédictions. Waouh ! Et troisièmement, il ajoute, et il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, déjà aujourd'hui. Dans l'attente du retour de Christ, de l'enlèvement, déjà il veut mettre dans nos cœurs cette réalité d'être en sa présence. Parce que sur cette montagne, il intercède en notre faveur. Il prie pour moi. Vous vous rappelez quand il y a eu ce combat sur la montagne, Josué était dans la vallée contre les Amalécites, et puis lui combattait. Et vous savez, il y en a qui combattent. Mais sur la montagne, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Moïse. Et quand Moïse avait les bras levés, Josué était vainqueur. Puis où on en est, et Josué se prenait... Enfin, vous avez des mots et un vocabulaire riche pour savoir ce que je veux dire. Alors, il y a eu Hur et Aaron. Ça, c'est une belle image de l'Église. Mais aujourd'hui, nous avons mieux que Moïse. Jésus ne baisse pas les bras. Il est sur la montagne. Il intercède. Arrêtons de faire le constat du négatif. Arrêtons de tellement parler de ce que l'ennemi fait qu'on est en train de louer. Mais confessons la victoire de Christ. Tu es sur le trône, Seigneur. Tu es vivant. Alors je lève les yeux vers les montagnes et je sais que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que son nom soit béni. Amen. Mais soyez rassurés, le Seigneur nous dit, mais c'est tout simple, pour notre vie, entre dans ta chambre, dans l'intimité de ton cœur, et prie, et ton Père, Dieu qui est là, te le rendra. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a donné son Fils afin que nous ne périssions point mais que nous ayons la vie éternelle. Amen. J'ai envie ce matin de répondre à l'appel. Le Seigneur me parle, je veux me lever, mais je suis déjà levé. Mais je me lève encore. Et je dis, Seigneur, viens triompher de mes doutes. Viens triompher de mes faiblesses. Et ce matin, je voudrais confesser ta victoire sur ma vie. Je voudrais élever ton nom sur mon cœur. Que tu triomphes de mes lacunes, de mes faiblesses, de mes erreurs, de mes doutes. Mais ce matin, je veux t'élever. La fête de Noël, c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Alors ce matin, je me lève et je dis, Seigneur, guéris-moi peut-être. Pardonne-moi peut-être. Purifie-moi. Mais je veux confesser ta victoire. Amen. Je suis seul à m'être levé, mais c'est pas grave. Seigneur, nous voulons saluer ton nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et c'est par ce nom que tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vois mes sœurs, mes frères qui se lèvent. Tu connais ceux qui sont en plein combat, dans la lutte, dans le découragement, dans la maladie. Tu sais ceux qui traversent l'épreuve. Tu sais peut-être ceux qui se relâchent. Mais ce matin, qui te disent avec simplicité mais vérité, j'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Tu bénis nos cœurs et nos vies. Et qu'il y ait une onction particulière sur chacun au nom de Jésus. Amen.